Chant cinquième. Le combat. L'ombre des peupliers blancs s'allongeait. La brise du Ventoux remuait. Le soleil avait encore une couple d'heures de haut, et les laboureurs se retournaient vers le soleil de temps en temps, car ils désiraient le retour du serein et la vue de leurs femmes sur le seuil. Le toucheur s'en allait. Il roulait dans son esprit l'affront qu'il venait de recevoir à la fontaine. Sa tête était bouleversée et, de temps à autre, les élancements de sa rage concentrée lui jetaient au front le sang et la honte. Et, tout galopant dans les terres, il grommelait son courroux. Et, de l'âpre dépit qui gonfle son poumon, au caillou dont la croc est pleine, comme un buisson laid de prunelles, pour se battre, il eût cherché noise. Il eût de son trident percé le soleil. Un sanglier qu'on a relancé dans ses broussailles et qui court sur les mamelons déserts du sombre Olympe, avant de fondre sur les chiennes qui le pourchassent, hérisse le rude poil de son dos en aiguisant ses défenses au tronc des chênes. À la rencontre du vacher que le ressentiment aiguillonne et meurtrit, dans le même sentier venait le beau Vincent. Et, dans son âme souriante, il rêvait des douces paroles que l'amoureuse vierge, un matin sous le mûrier, lui avait dite. Droit comme une canée de Durance, il cheminait, et de bonheur et de paix, d'amour, rayonnaient ses traits. La brise molle s'engouffrait dans sa chemise béante. Il cheminait dans les galets, pieds nus, légers et gais comme un lézard. Maintes fois, à l'heure fraîche, où la terre se voile d'ombre, alors que dans les prés les feuilles de trèfle se replient frileuses aux alentours de la bastide où restait la belle, il venait tout troublé faire le papillon. Et, en cachette, habilement, du lucre d'or ou du moteux, il imitait de loin le chant grêle. La jeune fille ardente, qui a vite compris qui l'appelle, venait vite à la haie d'aubépine furtivement et le cœur doucement agité. Et le clair de lune qui donne sur les boutons de narcisse, et la brise d'été qui frôle au jour tombant les hautes barbes des épis, quand, sous le molle chatouillement, en mille et mille ondulations il se trémousse d'amour comme un sein qui tressaille, et la joie éperdue qu'éprouve le chamois lorsqu'à ses traces il a senti tout un jour dans les rocs du Kairas les chasseurs qui le poursuivent, et qu'enfin, sur un pic escarpé comme une tour, il se voit seul dans les mélèzes au milieu des glaciers. Ce n'est qu'une rosée, au prix des courts moments de félicité que passaient alors Mireille et Vincent. Mais parlons bas, mes lèvres, car les buissons ont des oreilles. Cachés dans l'ombre pie, leurs mains, petit à petit, se mêlaient ensemble. Ensuite, ils se taisaient de longs intervalles, et leurs pieds heurtaient les cailloux, et tantôt, ne sachant se dire autre chose, l'amant novice comptait en riant les mésaventures qui lui arrivaient d'ordinaire, et les nuits qu'il dormait sous le firmament, et les dentées des chiens de ferme dont sa cuisse portait encore les cicatrices. Tantôt Mireille, de la veille et du jour, lui racontait ses petits travaux, et les propos de sa mère avec son père, et la chèvre qui avait ravagé toute une treille en fleurs. Une fois, Vincent ne fut plus maître. Sur l'herbe rude de la lande, couché tel qu'un chat sauvage, il vint en rampant jusqu'au pied de la Jouvencelle. Mais parlons bas, mes lèvres, car les buissons ont des oreilles. Mireille, accorde-moi de te faire un baiser. « Mireille, dit-il, je ne mange ni ne bois, tellement tu me donnes d'amour. Mireille, je voudrais enfermer dans mon sang ton haleine que le vent me dérobe. À tout le moins, de l'aurore à l'aurore, seulement sur l'ourlet de ta robe, laisse que je me roule en la couvrant de baisers. Vincent, c'est là un péché noir, et les fauvettes et les pendulines vont ensuite ébruiter le secret des amants. N'aie pas peur qu'on en parle, car demain, vois-tu, je dépeuple de fauvettes la croix entière jusqu'en Arles. Mireille, je vois en toi le paradis pur. Mireille, écoute, dans le Rhône, disait le fils de maître Ambroise, est une herbe que nous nommons l'herbette aux boucles. Elle a deux fleurs bien séparées sur deux plantes et retirées au fond des fraîches ondes. Mais quand vient pour elle la saison de l'amour, l'une des fleurs, toute seule, monte sur l'eau rieuse et laisse au bon soleil épanouir son bouton. Mais, la voyant si belle, l'autre fleur tressaille, et la voilà pleine d'amour, qui nage tant qu'elle peut pour lui faire un baiser. Et, tant qu'elle peut, elle déroule ses boucles hors de l'algue qui l'emprisonne, jusqu'à temps, pauvrette, qu'elle rompe son pédoncule. Et libre enfin, mais mourante, de ses lèvres pâlies, elle effleure sa blanche sœur. Un baiser, puis ma mort, Mireille, et nous sommes seuls. Elle était pâle, lui, avec délice, l'admirait. Dans son trouble, tel qu'un chat sauvage, il se dresse dehors, et promptement, de sa hanche arrondie, la fillette effarouchée veut écarter la main hardie qui déjà lui ceint la taille. Il la saisit de nouveau. Mais parlons bas, ô mes lèvres, car les buissons ont des oreilles. « Laisse-moi !» gémit-elle, et elle lutte en se tordant. Mais d'une chaude embrassade, déjà le jeune homme l'étreint, joue contre joue. La fillette le pince, se courbe et s'échappe en riant. Et puis après, vive et moqueuse, elle lui chantait de loin « Linghetto, linghetto !» Ainsi, eux deux semaient au crépuscule leur blé, leur joli blé de lune, manne fleurie, heure fortunée, qu'au manant comme au roi, Dieu envoie en abondance. Un soir donc, dans la vaste croc, le beau trousseur de banne, à la rencontre d'Ourias, venait dans le sentier. La foudre d'un orage frappe le premier arbre qui l'attire, et les entrailles bouleversées par la colère, voici comment parla le dompteur de bœufs. C'est toi, peut-être, fils de prostituée, qui l'a ensorcelé, la Mireille. En tout cas, ô déguenillé, puisque tu vas de vers là-bas, dis-lui donc que je ne me soucie d'elle et de son museau de belette, pas plus que du vieux lambeau de toile qui te couvre la peau. Entends-tu, beau marjolet ? Vincent tressaillit. Son âme se réveilla comme la flamme, son cœur bondit comme un feu grégeois qui s'élance. « Rustre, veux-tu donc que je t'éreinte et que ma griffe en deux te ploie ?» lui dit-il avec un regard terrible, comme celui d'un léopard qui, affamé, retourne la tête. Et de sa colère, le tremblement faisait frémir ses chairs violettes. « Sur le gravier, repartit l'autre, tu iras rouler par terre. Tu iras rouler par tête, car tes mains sont trop débiles et tu n'es bon, vil maraudeur, que pour ployer un brin d'osier, pour cheminer dans l'ombre et pour vagabonder. » « Oui, comme je tords l'osier, répond Vincent que ses mots exaspèrent, je vais tordre ta gorge. Vois, vois, fuis si tu peux, fuis, lâche ma colère. Fuis, ou par Saint-Jacques de Galice, tu ne reverras plus tes tamaris, car il va, ce point de fer, broyer tes os. » Émerveillé de trouver un homme sur qui enfin sa rage se dégorge. « Un moment, lui réplique le vacher hargneux, un petit moment, mon jeune fou, que nous allumions la pipe. » Et de sa poche, il tire un bourson en peau de bouc et en noir calumé qu'il embouche, et, dédaigneux, « Lorsqu'elle te berçait au pied d'une ansérine, ne t'a-t-elle jamais raconté, Jean de l'Ours, ta mère bohémienne ? » dit-il à Vincent. Jean de l'Ours, homme double, quand son maître, avec deux paires de bœufs, l'envoya labourer ses chaumes, saisit comme un pâtre saisit un hippobosque, les bêtes toutes attelées, et sur un peuplier à haute cime, il les lança dans les airs, la charrue avec. « Et pour toi, chétif, c'est fort heureux que par ici ne soit point de peuplier. » Tu n'ôterais pas un âne de la lisière d'un champ, grand porc. Tu n'as que de la langue. Et Vincent, à l'arrêt, comme un lévrier tient une bête fauve, tenait là son adversaire. Dis donc, lui criait-il à se briser la gorge. « Long goinfre qui t'écarquille orgueilleusement sur ta haridelle, descends-tu ou je te descends? Tu mollis, tu mollis, maintenant que nous allons savoir qui t'étale le bon lait. C'est toi, scélérat, qui porte barbe? Je te foulerai comme une gerbe. C'est toi qui as méprisé la vierge de ce mas, Mireille, la fleur du terroir? Oui, moi-même, le méchant vanier, moi, Vincent, son poursuivant, je vais laver tes mépris dans son sang si tu en as. » Mais le vacher hurle, « Hu, hu, bohémien, poursuivant de cuisine, attends, attends-moi !» Sur le champ, il saute à terre. Au loin, les vestes volent. Il frappe des mains, les airs tremblent. Sous eux, les cailloux roulent. L'un sur l'autre, ils fondent à la fois comme deux taureaux. Ainsi, deux taureaux, quand sur les savanes, le grand soleil darde avec force, ont vu le poil luisant et la large croupe d'une brune et jeune vache, beuglant d'amour au milieu des typhas, et sur le champ la foudre éclate en eux, et d'amour sur le champ ils deviennent fous et aveugles. Puis ils trépignent, puis se regardent, prennent élan et s'entrechoquent, et de nouveau prennent élan et, abaissant leurs mufles, font retentir les coups de tête. Long et cruel est le combat, car c'est l'amour qui les enivre, c'est l'amour puissant qui les pousse et les aiguillonne. Ainsi frappaient les deux champions, ainsi furieux, ils se gourmaient la tête. Urias a reçu le premier Orion, mais comme l'autre le menace d'un nouveau coup, sa main énorme se lève dans l'air comme une massue, et d'un large soufflet, il assomme Vincent. « Tiens, tiens, chétif, pare cette gourmade !» Tâte, mon brave, si j'ai l'onglet, se crie-t-il l'un à l'autre. Courage, compte, bâtard, les meurtrissures où s'enfoncent mes phalanges pointues. Et toi, monstre hideux, compte les onces de sang vif qui jaillissent de ta chair. Alors ils se saisissent, se houspillent, s'accroupissent et s'allongent, épaule contre épaule et orteil contre orteil. Les bras se tordent, se frottent comme des serpents qui s'entortillent. Sous la peau, les veines bouillent, les efforts tendent les muscles des mollets. Longtemps ils se roidissent, immobiles, les flancs leur battent, comme quand bas de l'aile un outardeau pesant. Inébranlables, la langue muette, l'un l'autre s'accotant dans leur poussée, comme les piles grandes et brutes du pont prodigieux qui enjambe le Gardon. Et tout d'un coup ils se séparent, et de rechef les poings se ferment. De rechef le pilon et gruge le mortier. Dans la fureur qui les étreint ensemble, ils y vont des dents, ils y vont des ongles. Dieu, quel coup Vincent lui assène! Dieu, quels soufflets énormes lance le bouvier! Accablantes étaient les bourrades que celui-ci déchargeait à plein poing. Mais l'enfant de Valabrègue, frappant avec la rapidité d'une grêle soudaine et drue, autour de lui bondit et rebondit, telle qu'une fronde tourbillonnante. « Voici, dit-il, le heurt ruffiant qui te broie !» Mais comme il tord le dos en arrière pour mieux frapper son agresseur, le vigoureux bouvier soudain l'empoigne par les flancs, à la manière provençale, le lance derrière l'épaule, comme le blé avec la pelle, et au loin, il va frapper des côtes au milieu de la plaine. Ramasse, ramasse l'arpent de terre que ton museau a labouré, et si tu aimes la poussière, vermisseau, mange et bois. Assez de mots, bête ignorante, les trois coups seuls achèvent une lutte, répond le gars en qui s'accumule la haine amère. Le sang lui monte au faîte des cheveux. Il se relève, le vanier, comme un dragon et fier lutteur, au risque de périr ou de venger son nom. Il fond sur le sauvage Camarguais et, d'une force et d'un courage merveilleux pour sa jeunesse, lui allonge dans la poitrine un mortel coup de poing. Le Camarguais chancelle, il tâte pour étayer son vaste dos, mais, à ses yeux nébuleux, il semble aussitôt qu'autour de lui tout tourbillonne. Une sueur glacée lui monte à la face et, à grand bruit, tel qu'une tour, tombe le grand Urias au milieu de la lande. La croix était tranquille et muette. Au lointain, son étendue se perdait dans la mer et la mer dans l'air bleu. les cygnes, les macreuses lustrées, les flamants aux ailes de feu venaient, de la clarté mourante, saluer le long des étangs les dernières lueurs. La cavale blanche du vacher tondait les branches des chênes kermesses, et vide les étriers, les grands étriers de fer, sonnaient et se balançaient contre son ventre. « Remue encore et je te crève ! Maintenant, brigand, tu peux sentir si à la canne ou à l'empan doivent se mesurer les hommes !» Dans le silence de la lande, le vanier d'un pied victorieux pressait la poitrine d'Ourias éreintée. Sous la jambe qui le serre, le toucheur luttait encore, et par les lèvres et par les narines vomissait à grands flots un sang noir et meurtri. Trois fois il voulut secouer le pied onglé de l'enfant aux corbeilles. Trois fois, d'un tranchant de main, le fils de maître Ambroise le terrassa sur le gravier. Et le vacher écumant, les yeux hagards retombaient en soufflant, et la bouche béante comme une horrible baudroie. Les hommes donc, Forban, ta mère ne les fit pas tous ? Lui criait Vincent. Au bœuf de Sylvaréal, va, va dire quel est mon poignet. Va cacher tes tumeurs, ton insolence et ta honte au fond de ta Camargue, parmi tes taureaux. Cela dit, il lâcha la bête féroce. Tel un tondeur dans le bercail retient entre ses jambes un grand bélier cornu, mais sitôt qu'il lui a abattu la robe, sur la croupe il lui donne une tape et le délivre. Ainsi, gonflé de rage et tout poudreux, le vacher bondit et part. Une pensée maudite le précipite à travers champs. Il jetait des imprécations, hurlantes et frémissant, dans les chênes kermesses, dans les genêts. Que cherche-t-il ? Aïe, aïe, il s'arrête. Aïe, aïe, aïe ! Sur la tête, il brandit son trident terrible et fond sur Vincent. Lorsqu'il se vit sous la lance, sans revanche ni espoir, Vincent pâlit comme au jour de sa mort. Non que mourir lui soit dur, mais ce qui accable sa nature, c'est de se voir la proie d'un félon que la ruse avait fait le plus fort. « Traître, oserais-tu » dit-il à peine, et résolu comme un martyr, il s'arrête. Au loin, caché dans les arbres, était le mas de son amante. Il se tourna vers lui avec grande tendresse, comme pour dire à la pastourelle « Regarde-moi, Mireille, pour toi, je vais mourir. » Ô beau Vincent, de celle qu'il aime rêvait encore son âme. « Fais ta prière !» Ourias tonna soudain d'une voix impitoyable et rauque. Et il le perce de son fer. Avec un fort gémissement, sur l'herbe, l'infortuné vanier roule de son long. Et l'herbe ploie ensanglantée. Et de ses jambes terreuses, les fourmis des champs font déjà leur chemin. Mais le toucheur galopait. Sur les galets, au clair de lune, tout en fuyant, grommelait-il, ce soir les loups de crocs vont rire à pareil festin. La croix était tranquille et muette. Au lointain, son étendue se perdait dans la mer et la mer dans l'air bleu. Les cygnes, les luisantes macreuses, les flamants aux ailes de feu venaient de la clarté mourante saluer le long des étangs les dernières lueurs. Et galope, vacher, galope, galope toujours. Hop, hop! Criaient les crabiers verts à sa cavale qui chauvit des yeux, des naseaux et des oreilles. Sous la lune déjà brille le Rhône, sommeillant dans son lit découvert, comme un pèlerin de la Sainte Baume qui, nu de lassitude et de chaleur, s'étend et s'endort au fond d'un ravin. Oh, l'entendez-vous ? Oh, de la barque ! Oh, oh, en pont ou en cale, me passeriez-vous, moi et ma jument ? De loin à trois marins cria le vacher. Viens vite, viens, bon garnement, répondit une voix goguenarde, afin de voir monter la lampe de la nuit, entre les avirons et la gaffe, le poisson frétillant circule. La pêche presse, le poisson remue. Mon brave, l'heure est bonne. Aborde, aborde vite. sur la poupe le scélérat s'assied. La cavale derrière le bateau nageait, le licou attaché à l'estrope. Et les grands poissons vêtus d'écailles, abandonnant leurs grottes profondes, du Rhône mouvait le calme et luisant bondissait autour de la proue. « Maître pilote, prends garde, la nef devient boiteuse, ce me semble !» Et l'interlocuteur, pied sur banc sur l'aviron, de nouveau se ploya comme un sarment de vigne. « Voilà un instant que je m'en aperçois. Nous portons un poids mauvais, vous dis-je, » répondit le pilote. Et après, il se tut. La vieille barque chancelait de-ci, de-là, vacillait d'un branle effrayant comme un homme ivre. La vieille barque était mauvaise, demi-pourrie étaient les planches. « Tonnerre de Dieu !» crie le toucheur. Et il se cramponne au gouvernail, et il se lève effrayé. Mais, sous une invisible force, la nef de plus en plus se tord comme un serpent auquel un pâtre avec un bloc de pierre a rompu l'échine. « Compagnons, pourquoi ces secousses? Vous voulez donc que je me noie ?» Ainsi apostropha les mousses, le toucheur, pâle comme un platras. « Je ne puis plus maîtriser la barque, » répondit le pilote. « Elle se cabre sous moi et bondit comme fait une carpe. Tu as tué quelqu'un, misérable !»« Moi, qui te l'a dit? Que Satan, si cela est vrai, avec son fourgon, me tire sur le champ au fond des abîmes. » « Ah !» poursuivit le pilote livide, « c'est moi qui me trompe. J'oubliais que c'est la nuit de Saint-Médard. Tout malheureux noyé, des gouffres affreux, des tourbillons sombres, dans quelque profondeur que l'eau l'ensevelisse, sur terre cette nuit doit revenir. La longue procession déjà se développe. Les voilà, pauvres âmes éplorées. Les voilà. Sur la rive pierreuse, ils montent pieds nus. De leurs vêtements limoneux, de leurs chevelures feutrées, coule à grosse goutte l'eau trouble. Dans l'ombre, sous les peupliers, ils cheminent par file, un cierge allumé à la main. Comme ils regardent les étoiles. Du monceau de sable qui les emprisonne, en arrachant leurs jambes contractées, hélas, avec leurs bras bleuis, avec leurs têtes, où la vase reste encore, ce sont eux qui, telle qu'une tempête heurte le bateau de cette rude oscillation. Toujours quelqu'un de plus arrive et gravit avec ardeur la berge. Comme ils boivent l'air limpide et la vue des crocs et la senteur qui vient des récoltes, et combien ils trouvent doux le mouvement en regardant leurs vêtements pleuvoir. Toujours quelqu'un de plus monte de la voirie. « Il y a des vieillards, des jeunes gens, des femmes, » disait le maître de l'aviron. « Comme ils secouent la fange et l'horreur du vivier. Des formes décharnées et édentées, des pêcheurs qui cherchaient à prendre la lamproie et la perche et qui, aux perches et aux lamproies, ont servi de pâturage. Vois, contemple cet essaim qui glisse, inconsolable sur la grève. Ce sont les belles jeunes filles, les folles d'amour, qui, se voyant séparées de l'homme aimé, de désespoir, ont demandé l'hospitalité au Rhône pour noyer leur immense douleur. Voilées, ô pauvres jouvencelles, dont l'obscurité diaphane palpite leurs seins nus avec un tel râle sous l'algue qui les souille, que de leurs chevelures qui voilent leur visage, à longs flots je doute encore si c'est l'eau qui ruisselle ou les larmes amères. Le pilote ne parla plus. Les âmes tenaient une flamme à la main et suivaient silencieuses et lentes le rivage. Vous eussiez entendu le vol d'une mouche. Maître pilote, mais dans l'obscurité, ne vous semble-t-il pas en recherche ? Lui dit le Camarguais, pris d'horreur et d'épouvante. « Oui, ils sont en recherche. Vois, infortunés, comme ils tournent la tête de toutes parts. Ils cherchent les bonnes œuvres et les actes de foi qu'ils se mêlent, nombreux ou rares, à leur passage sur la terre. Dès qu'ils aperçoivent l'objet de leur espoir, de même qu'à la fraîche ivraie, nous voyons les brebis courir, ils se précipitent et, cueillis, entre leurs mains la belle œuvre devient fleur. Et quand pour un bouquet la moisson est suffisante, à Dieu ils le montrent avec joie. Et vers les portes de Saint-Pierre, la fleur emporte celui qui l'a cueillie. Dans la gueule immense de la mort, tombée, la tête retournée, ainsi au noyé, Dieu lui-même donne un sursis pour se racheter. Mais sous la masse liquide du fleuve sombre, avant que l'aube ne se lève, en voilà qui retourneront s'ensevelir. Renieur de Dieu, mangeur de pauvres, tueur d'hommes, traître, troupeau rongé de vers, ils cherchent une œuvre de salut. Et ils ne foulent dans les graviers du fleuve que grands péchés et crimes, sous forme de cailloux où bronchent leurs orteils nus. Fin de mulets, fin de coups de trique, mais eux, dans la vague qui rugit, sans fin convoiteront le pardon céleste. Tel qu'un brigand au tournant d'un chemin, Urias à ce moment le saisit au coude. L'eau dans le bateau! Il y a l'écope! Répond tranquille le pilote. Avec ardeur, Urias vide la barque, et courage, il travaille comme un perdu. Sur le pont de Trinquetaille, les trèves cette nuit-là dansaient. Et courage, vide, Urias, vide, vide toujours. La cavale veut rompre son licou, folle. Blanque, qu'as-tu? As-tu peur des morts? Lui dit son maître, les cheveux dressés d'effroi. Et, taciturne, le gouffre liquide, le long du dernier bordage, clapote bord à bord. « Je ne sais pas nager, capitaine. La sauverez-vous, la barque ?»« Non, encore un clin d'œil, la barque tombe à fond. » Mais de la rive où erre la procession qui tant effraie, les morts vont nous jeter un câble. » Il dit, et dans le Rhône la barque s'engloutit. Et dans l'obscurité lointaine, et des lampes blafardes qui, aux mains des noyés, tremblotent, un long rayon, d'une rive à l'autre, brille comme un éclair. Et, de même, au soleil qui point, de même qu'une araignée qui file se laisse glisser le long du fil qu'elle jette, les pêcheurs qui étaient des trèves, au rayon clair qui fait bascule, se hissent et rapidement se glissent tout le long. Du milieu de l'eau qui l'emmuselle, Urias envoie aussi au câble ses mains crispées. À Trinquetaille, les trèves, cette nuit, dansèrent sur le pont.